Bon, sans vouloir être méchant, pourquoi cette nouvelle génération d'adolescents, la génération alpha, je pense, est-elle si impolie? Arrêtez de regarder.
Boomer. Oh là là.
On a décidé qu'il fallait programmer des heures pour les enfants du matin au soir. Et il y a beaucoup d'enfants stressés de nos jours, à tous les âges. C'est un problème. Des enfants qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ne comprennent pas les conséquences, qui ne connaissent pas les limites. Avez-vous remarqué récemment que les enfants manquent de compétences sociales importantes? Je parle de compétences de base. On a des problèmes de comportement avec eux. Je commence à remarquer cette addiction aux écrans géants. Ils vivent sur leur téléphone. Ils se comportent
comme des accros. Ils sont hyper émotifs. La moindre petite chose les met en colère. Comment aborder un enfant de 8 ans obsédé par les jeux vidéo? C'est très courant. J'entends ça tous les jours. On interagit brièvement avec eux entre deux visites sur Internet, ce qui est leur vraie vie. Si je vous demandais de vous remémorer des souvenirs d'enfance, vous pourriez décrire quelque chose comme courir librement dehors, grimper aux arbres, jouer pendant des heures avec les amis du quartier, vous déguiser et rentrer à vélo avant le coucher du soleil. Pour la plupart des enfants, cependant, cette version de l'enfance est une expérience inconnue. Gen Alpha, née entre 2010 et 2025, vit un changement où la joie et la curiosité naturelle qui devraient caractériser l'enfance ont été involontairement remplacées par des adultes bien intentionnés. Les parents de la génération Y, tout en prétendant donner à leurs enfants autonomie et capacité d'agir, les condamnent à des vies surchargées, surmenées et surstimulées. Le grand paradoxe de la parentalité moderne est que, malgré le fait que nous consacrions plus de temps et d'argent que jamais à l'avenir de nos enfants, les résultats sont décevants. Nous constatons que les enfants vivent désormais sans véritable loisir, sans compétences sociales, sans régulation émotionnelle, sans temps libre, et tout cela avec un manque de sommeil. Et en tant que parents de la génération et d'enfants de la génération alpha, j'ai peur de faire de même, et c'est pourquoi nous sommes là. Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet. Comment les enfants passent trop de temps à faire les mauvaises choses et manquent de l'intelligence émotionnelle et de la résilience mentale nécessaires pour survivre à l'enfance, sous le regard attentif de parents aimants. Avant d'aborder les problèmes rencontrés par la génération alpha, je voudrais aborder l'importance de l'enfance, car ces premières années ont un impact considérable sur le reste de la vie. Plus précisément, je souhaite m'attarder sur le coût d'opportunité de l'enfance. Si vous ne savez pas ce qu'est un coût d'opportunité, le New Oxford American Dictionary le définit comme la perte de gain potentiel d'autres alternatives lorsqu'une seule option est choisie. Ce terme est généralement utilisé pour les entreprises où il faut prendre en compte le coût de l'inaction. Prenons l'exemple d'un propriétaire de café qui doit choisir entre ouvrir un nouveau café ou conserver son établissement actuel. S'il n'en avait conservé qu'un seul, il aurait pu être rentable, mais ce deuxième établissement aurait pu être encore plus rentable. Ainsi, en ne l'ouvrant pas, il est perdant. Fondamentalement, le coût d'opportunité est la valeur de ce que l'on ne fait pas et de ce que l'on perd en ne choisissant pas la meilleure option. Ainsi, en appliquant ce principe à l'enfance, on constate que la façon dont le temps d'un enfant est réparti peut engendrer des compromis. Si le coût d'opportunité de l'enfance est si particulier par rapport à l'âge adulte, c'est que, pour la plupart des enfants, c'est la seule période de la vie où l'on dispose d'autant de temps libre et d'énergie mentale pour investir en soi et dans la personne qu'on va devenir. À l'âge adulte, on est pris par sa carrière, les factures, l'entretien de la maison et toutes les autres responsabilités d'adulte. Si les enfants ont encore des responsabilités, ils ont beaucoup plus de temps libre, comme il se doit. C'est le moment pour eux d'explorer, d'essayer, d'échouer et d'apprendre. Et tout cela constitue les fondations de ce que l'on deviendra. L'enfance est un âge spécifique du développement, une étape où l'architecture du cerveau se construit. Ce sont les premières expériences qui détermineront l'adulte qu'il deviendra. Si cet enfant grandira en étant compatissant ou confiant, ou s'il développera un esprit critique ou un esprit de prise de risque, si vous ratez cette période cruciale de découverte de soi parce que vous êtes absorbé par d'autres activités qui ne forgent pas le caractère, vous payez le prix d'un potentiel perdu. Le temps passé devant un écran en est un exemple. Bien sûr, si le temps passé devant un écran pour les enfants n'est pas intrinsèquement mauvais, et que de nombreux parents l'utilisent, il n'en demeure pas moins que pour chaque heure passée sur son iPad, un enfant ne passe pas une heure à jouer, à explorer la nature ou à développer ses compétences sociales. Ce n'est pas qu'une option soit mauvaise, c'est qu'il en existe une meilleure qui est perdue. Un autre coût d'opportunité est de surcharger son emploi du temps. S'il est formidable de participer à des sports et activités organisées, priver son enfant de cet espace pour l'ennui, la créativité ou l'exploration personnelle a un coût. Et ce coût d'opportunité s'applique également à la parentalité. Surprotéger ses enfants assurera bien sûr leur sécurité à court terme, mais au prix de les priver de résilience, de courage et de confiance. Les spécialistes s'accordent généralement à dire que l'enfance et l'adolescence, extraordinairement longues dans notre espèce, ont pour but l'inculturation, l'acquisition de toutes les compétences, de tous les savoirs, de toutes les coutumes et de tous les comportements nécessaires pour être compétent dans la culture dans laquelle on vit. Et c'est ce que je souhaite analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Les différentes manières dont les enfants sont étouffés dans leur enfance et empêchés d'atteindre leur plein potentiel parce qu'ils passent trop de temps dans des activités qui ne les préparent pas à devenir des adultes pleinement épanouis. Quant aux libertés et à l'épanouissement personnel, cela ne s'applique pas qu'à l'enfance. En tant qu'adultes, nous devrions avoir la liberté d'accéder à l'information, aux médias et aux perspectives du monde entier sans barrières numériques arbitraires. Personnellement, lorsque je fais des recherches pour mes vidéos, le pire est toujours d'être bloqué sur un site web parce que je suis au mauvais endroit. Récemment, je cherchais à regarder le documentaire Surveillance pour une vidéo sur laquelle je travaille, mais il n'est disponible que sur HBO et non au Canada. C'est là qu'intervient NordVPN, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Que vous cherchiez à lire un article américain bloqué au Canada ou à regarder un documentaire uniquement disponible au Royaume-Uni, NordVPN vous permet de modifier votre localisation virtuelle en un seul clic. L'avantage de NordVPN, c'est qu'il offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Par exemple, la protection de vos données, même sur le Wi-Fi public douteux de votre café du coin, et son outil de protection contre les menaces bloque les logiciels malveillants, les publicités intrusives et les sites web malveillants. Et maintenant, il propose même un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser et organiser toutes vos connexions. Si vous souhaitez également la liberté en ligne, inscrivez-vous via le lien dans la description et bénéficiez d'une offre exclusive, un abonnement de 2 ans plus 4 mois supplémentaires. Ce lien est nordvpn.com/embers. Et c'est sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours de Nord. Un autre coût d'opportunité dont on ne parle pas assez est le coût de l'absence d'Internet en voyage. Le mois dernier, nous sommes partis en famille à Palm Springs. En tant que Canadien, je me serais retrouvé sans Internet où j'aurais dû payer des frais d'itinérance exorbitants sans notre sponsor actuel, Sly. SL est une application de service EIM qui propose des forfaits Internet abordables pour plus de 180 pays. Vous pouvez ainsi configurer tout cela numériquement sans avoir à faire la queue à l'aéroport pour obtenir une carte SIM locale. Il suffit de télécharger l'application sur votre appareil Apple ou Android et de suivre les instructions pour installer l'ESIM avant votre voyage. L'ESIM SI sera alors activé instantanément après l'atterrissage et vous pourrez vous connecter facilement au réseau local. Et c'est aussi abordable. Lors de notre voyage à Palm Springs, j'ai obtenu 5 gigaoctets de données pour seulement $13, ce qui m'a permis de profiter d'une semaine entière. Si vous prévoyez un voyage, profitez d'une réduction exclusive de 15% sur les forfaits de données EIM en promotion. Téléchargez simplement l'application et utilisez le code EMBERS lors du paiement. Bien qu'il soit de votre devoir de parent d'aider votre enfant à se développer, beaucoup de nos jours en font trop. Et nous le constatons à travers la vie surchargée des enfants. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour eux. Et c'est pourquoi nous voulons leur offrir les mêmes opportunités que nous avons eues en grandissant, voire mieux, bien sûr. Mais cela se concrétise souvent en remplissant chaque heure libre de la vie de nos enfants avec des activités parascolaires. Un sondage a été mené auprès d'enfants et de jeunes Canadiens âgés de 6 à 17 ans et la majorité d'entre eux, soit 86%, ont participé à au moins une activité parascolaire. Dans un autre sondage, on a demandé aux parents à quelle fréquence leur enfant pratiquait un sport chaque semaine. Près d'un quart ont déclaré que leur enfant y participait 4 fois ou plus par semaine, et 38% ont déclaré 2 à 3 fois par semaine. Combien d'entre vous rentrent de l'école, mangent un encas et courent jouer dehors? Personne n'a osé dire qu'ils allaient jouer à la maison. Pourquoi pas? Que faites-vous après l'école à la place? Le lundi, j'ai cours de hip-hop. Le mardi, j'ai ce truc de tournage que ma mère veut que je fasse, mais je ne veux pas, mais je dois quand même le faire. Et puis le mercredi, j'ai entraînement de basket. Le jeudi, je m'occupe de la scénographie. Vous êtes tout le temps fatigué? On dirait que tout le monde est épuisé. Donc, les enfants sont pour le moins occupés. Car même si un sport ne peut occuper qu'un ou deux soirs par semaine, il faut prendre en compte l'emploi du temps global des enfants, où ils peuvent aussi avoir des cours de piano et des matchs de sport avec leurs frères et sœurs, des activités extrascolaires ou autres, ça s'accumule très vite. Mais si ces activités sont bénéfiques en elles-mêmes, bien sûr, l'inconvénient est que les enfants manquent souvent le temps libre dont ils ont besoin. Je pense que le sport chez les enfants détruit les familles, les mariages et les enfants eux-mêmes. Mon fils pratiquait 2 sports au printemps et on avait un entraînement tous les soirs de la semaine. Ensuite, on avait un entraînement ou un match, et puis on avait aussi des matchs le week-end. Et on était épuisés. Tout le monde était épuisé, mais c'est devenu insensé. Mes enfants ont 6 et 9 ans. Et à ce niveau, avec ce niveau de compétition, avec ces attentes qu'on a envers les enfants de cet âge, Je pense que c'est préjudiciable. Je pense que ça fait plus de mal que ça n'aide. Et je ne pense pas que se brûler les doigts et faire courir les enfants tous les soirs et tous les week-ends soit la solution. De nombreux parents aujourd'hui craignent que si leur enfant ne réussit pas, ils échouent, ignorant totalement les bienfaits du temps d'arrêt. Dans notre monde capitaliste, tout se résume au capitalisme. Je jure que toutes les vidéos ont un thème capitaliste, mais on nous apprend qu'une vie pleine de sens signifie remporter toutes les épreuves scolaires et professionnelles. Mais ces réussites à elles seules n'apportent pas le véritable bonheur. Le scénario de la classe moyenne veut que les priorités d'un enfant soient l'école, l'université et la carrière. Tout ce qui ne rentre pas dans ces catégories est inutile ou une perte de temps. Cette enquête de 2023 montre qu'une grande majorité de parents, 88%, estiment qu'il est très ou extrêmement important pour leurs enfants d'être financièrement indépendants, ce qui est une façon polie de dire qu'ils sont financièrement aisés. Mais seulement 21% des parents pensent qu'il est important que leurs enfants se marient et seulement 20% pensent qu'il est important qu'ils aient un enfant. Je ne dis pas cela pour dire que tout le monde a besoin d'enfants pour être heureux. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis simplement que les parents se soucient davantage de leur réussite financière que de leur réussite sociale ou émotionnelle. Et ce cheminement conduit les enfants à se concentrer sur une seule trajectoire, une seule histoire. Leur carrière les rendra heureux. Et comme toute personne ayant une carrière peut vous le dire, cela ne suffit pas à les épanouir, du moins pour la plupart des gens. Comme l'a dit Alexander Kellmer, les trois éléments essentiels du bonheur sont une activité, une personne à aimer et un espoir. Et aucun de ces éléments n'est isolé. Les jeunes entrent aujourd'hui sur le marché du travail en se sentant perdus, car ils ont atteint leurs objectifs de vie, études et carrière, mais se retrouvent désorientés, sans véritable loisir, sans compétences sociales et sans personnalité. C'est évidemment une généralisation, mais c'est parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité de découvrir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, ni de s'investir dans ce qui leur correspond. De ce fait, les enfants passent aujourd'hui moins de temps que jamais à jouer librement en extérieur. En une génération au Royaume-Uni et aux États-Unis, le jeu en extérieur a diminué de 71%. Au lieu de cela, le jeu en extérieur est remplacé par davantage de temps passé devant les écrans, les écoles et les parents privilégiant l'apprentissage scolaire au jeu. Ce qui nous échappe ici, c'est que les enfants tirent leur estime de soi de leur réussite scolaire et extrascolaire plutôt que de leur identité. Les joies simples de la vie sont annihilées lorsque la peur de l'échec alimente le récit de l'enfance. Comme je l'ai dit ici, en chargeant la vie d'un enfant de 8 ans d'activité, avec peu de temps libre pour réfléchir, aucun moment de calme pour se détendre, aucun repas entre parents et enfants, cette mère envoie un message clair : ce que l'on fait est plus important que ce que l'on est. Et c'est un autre phénomène très courant chez les enfants d'aujourd'hui, ils ne dînent pas en famille parce qu'ils sortent tous les soirs pour faire du sport et des activités. Au cours des 3 dernières décennies, le temps passé à table et les conversations familiales en général ont diminué de plus de 30%. Les familles avec enfants de moins de 18 ans déclarent dîner en famille 3 à 4 fois par semaine. Un tiers des familles avec enfants de 11 à 18 ans ne prennent qu'un ou deux repas par semaine ensemble. Un quart seulement prennent 7 repas familiaux ou plus par semaine. Et je ne peux vraiment pas leur en vouloir. On entre dans l'ère du sport, et je comprends que la situation puisse vite devenir incontrôlable. Avec un seul enfant, vous vous engagez à pratiquer un sport plusieurs soirs par semaine, y compris certains week-ends. Alors, bien sûr, si vous avez plusieurs enfants, ces soirées se remplissent très vite. Le problème vient du manque de reconnaissance de l'importance de ces dîners en famille et du manque de temps pour eux. Des études ont montré que les enfants qui dînent en famille sont en bien meilleure santé et bien plus épanouis que ceux qui ne le font pas. Les enfants qui mangent plus souvent avec leurs parents sont moins susceptibles d'avoir des problèmes intériorisés comme la tristesse, l'anxiété ou la solitude. Ils sont moins susceptibles d'avoir des problèmes extériorisés comme les bagarres, l'absentéisme ou le vol. Ils sont plus enclins à s'entraider et à être satisfaits de leur vie. Il ne faut donc pas se contenter de cela pour réduire l'apport calorique. Dîner régulièrement ensemble crée un lien familial fort et constitue l'un des meilleurs indicateurs de réussite d'un enfant. Lorsqu'ils bénéficient de la confiance et de la sécurité que leur procure leur famille, ils sont plus à même de surmonter les aléas de la vie. Je ne peux pas terminer cette section sans souligner les bienfaits des études et du sport. J'étais un athlète, un excellent élève, et ces aspects ont été très précieux dans mon enfance. Je ne veux donc pas les sous-estimer. Il s'agit simplement d'une surestimation et d'un engagement excessif. Encore une fois, le coût d'opportunité de privilégier une chose plutôt qu'une autre. L'autre problème que nous constatons, c'est que ce ne sont pas seulement les activités programmées qui accaparent tout le temps de nos enfants. Bien sûr, il y a plein d'autres activités pénibles qui ne leur sont pas bénéfiques. Le
manque de sommeil, le bus scolaire, un autre club.
Et l'un de ces problèmes, bien sûr, comme je l'ai mentionné, ce sont les écrans. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, car j'ai déjà dit à maintes reprises que les iPads ne sont pas bons pour les enfants. Il n'en demeure pas moins que 43% des alphas possèdent une tablette avant 6 ans et 58% un smartphone à 10 ans. Ce sur quoi je souhaite insister aujourd'hui, c'est l'épidémie de jeux vidéo. Car si beaucoup de la génération alpha sont des enfants sur iPad, certains sont désormais préadolescents et adolescents et sont accros à Roblox et Minecraft. J'ai jugé important de mentionner ceci, les filles subissent souvent des critiques pour leur addiction aux écrans, liées aux réseaux sociaux, mais les garçons sont tout aussi touchés, même si par d'autres supports. Quoi qu'il en soit, si la plupart des jeux d'enfants se déroulaient autrefois en extérieur, comme nous le savons, l'enfant américain moderne est désormais plus susceptible de passer son temps devant un écran. Avec la technologie profondément ancrée dans tous les aspects de la vie d'un enfant et des parents permissifs qui n'imposent aucune limite au temps passé devant un écran, la génération alpha passe plus de temps à jouer aux jeux vidéo que toute autre génération auparavant. Dans le chaos effréné de la vie moderne, nos enfants, la génération alpha de la génération Z, trouve souvent du réconfort dans l'univers numérique des jeux vidéo et des plateformes de streaming. C'est un paysage où le divertissement ne connaît aucune limite, mais où la frontière entre virtuel et réel s'estompe à une fréquence alarmante. En fait, les jeux vidéo sont la principale source de divertissement de ces jeunes. Chaque semaine, ils y consacrent 22% de leur temps de loisir. Ce n'est pas surprenant quand on sait que leur univers est entièrement connecté à la technologie, entre les rencontres sociales via des jeux vidéo coopératifs et même les devoirs en ligne. Bien sûr, 85% des adolescents américains déclarent jouer à des jeux vidéo et 41% d'entre eux affirment y jouer au moins une fois par jour. 4 et 10 se disent joueurs. Et c'est beaucoup, vous savez, pour des enfants. La moitié d'entre eux jouent tous les jours. N'est-ce pas beaucoup? Si les jeux vidéo présentent des avantages indéniables, on entend constamment parler de leur capacité à améliorer les compétences cognitives et la coordination œil-main. Il y a aussi des inconvénients. Toute cette vidéo est consacrée aux inconvénients, et cela vient du fait qu'ils passent beaucoup de temps en ligne. Des parents qui ont banni les tablettes de la vie de leurs enfants. Comment s'est passée cette transition? On envisage de ne faire ça que pour les jours de semaine. On a des problèmes de comportement avec les enfants. Rien de grave, mais je commence à remarquer une addiction aux écrans géants. Et maintenant, on en est au point où certains enfants ont une perception d'eux-mêmes liée à leur maîtrise des jeux vidéo. Et c'est là que l'addiction commence à s'installer. C'est un vrai problème quand on entend des enseignants en ligne dire que les enfants n'arrivent pas à se concentrer en classe parce qu'ils sont habitués à leurs jeux dopaminergiques. Et certains enseignants doivent même adapter leur programme pour compenser ce manque d'attention. Non pas que les études soient tout. Bien sûr, je pense que vous ne savez pas ce qui se passe dans l'éducation en ce moment. C'est normal. Comment le sauriez-vous si vous n'y travaillez pas? Mais je pense que vous devez le savoir. Voici donc exactement ce que c'est que de travailler dans l'éducation publique en ce moment. Tout d'abord, les enfants n'ont absolument aucune chance de s'ennuyer. Ils vivent sur leur téléphone et sont gavés d'un flux constant de dopamine, du réveil jusqu'au coucher, car ils sont en manque constant de dopamine à l'école. Ils se comportent comme des accros. Ils sont hyper émotifs, comme si la moindre chose les mettait en colère. Et quand on se tient devant eux pour leur faire la leçon, ils sont absents. Ils sont incapables de capter si votre communication n'est pas condensée en courts extraits ou si elle n'est pas agrémentée de flashs lumineux. C'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile pour moi, plus que les comportements directs, c'est d'être devant un groupe d'enfants qui ont les yeux ouverts. Ils me regardent, mais ils ne sont pas là. Mais ce qui manque ici, c'est le coût d'opportunité. En passant trop de temps à jouer aux jeux vidéo, les enfants ne se développent pas en tant qu'individus. Ils se développent en tant que joueurs. Ce qu'il faut faire, c'est diversifier l'enfance pour qu'elle continue à avoir des jeux vidéo, mais aussi des expériences de la vie réelle et des compétences. C'est un peu fou de devoir dire ça de nos jours. Comme je l'ai dit ici, une partie du rôle des parents est, et a toujours été, d'éduquer le désir, d'apprendre à son enfant à désirer et à apprécier des choses plus nobles et meilleures que la barbe à papa. Les jeux vidéo et les réseaux sociaux sont la barbe à papa de la culture populaire actuelle. Je trouve aussi que ce style parental permissif écarte l'addiction aux jeux vidéo, car ce ne sont que des enfants et qu'ils s'en remettront en grandissant. Mais ce n'est pas prouvé. La vérité, c'est que plus on devient accro jeune, plus il est difficile de s'en défaire en grandissant. Les enfants ont besoin d'être ancrés dans le monde réel, pas dans celui des écrans. C'est donc l'un des inconvénients des jeux vidéo, la perte de temps que l'on pourrait consacrer à développer sa personnalité. Mais l'autre problème de cette addiction aux écrans est qu'elle provoque également une épidémie de sommeil. La montée de la parentalité permissive signifie que les parents ne s'impliquent plus dans la régulation du temps passé devant les écrans. Ils pensent qu'être un bon parent signifie laisser ses enfants décider dans presque toutes les circonstances, y compris dans quel cas les parents doivent absolument intervenir. Les enfants américains sont tellement occupés entre leurs sports organisés, leurs études et leurs addictions aux jeux vidéo que la majorité d'entre eux manquent désormais de sommeil. Parmi les lycéens de dernière année, 84% dorment moins de 8 heures par nuit. Et les enfants américains dorment beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Les enfants n'aiment pas dormir, tout le monde le sait. Et c'est une légende aussi vieille que le monde que les adolescents veulent veiller tard et faire la grasse matinée. Mais les enfants n'ont jamais eu autant de distractions pour les tenir éveillés et leur faire perdre leur nuit. Il est plus courant que jamais que les enfants veillent jusqu'à 1h, 2h du matin, ou n'importe quelle heure, parce qu'ils sont rivés à leurs écrans, et que personne ne les en empêche. Le manque de sommeil est ce qui cause des dommages irréparables aux enfants. D'abord, le manque de sommeil chez les enfants est connu pour entraîner des problèmes de poids et l'obésité, en partie parce que cela perturbe leurs hormones, mais aussi parce qu'ils sont moins susceptibles d'être physiquement actifs le lendemain à cause de la fatigue. Mais tout aussi inquiétant, le manque de sommeil nuit à leur performance scolaire et à leur santé mentale. Parents, parents de collégiens et de lycéens, s'il vous plaît, emportez le téléphone de vos enfants avant qu'ils aillent se coucher. Ces enfants sont fatigués. Et pas fatigués comme un adolescent. Pas fatigués comme « je m'ennuie en cours ». Fatigués. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. J'ai veillé jusqu'à 3 heures du matin sur mon téléphone. J'avais deux enfants en classe aujourd'hui, et l'un d'eux me dit que son seul ami me dit « Frère, il m'a envoyé des SMS jusqu'à 3 heures du matin hier soir ». Je lui réponds « Bon ». Alors tu l'ignores et tu vas te coucher. J'avais cet enfant. C'est peut-être l'enfant le plus endormi du monde. Et entre chaque tâche, sans blague, chaque tâche, il répond à une question, la tête baissée, et s'endort à chaque fois. Je lui dis, « Dis donc, tu dors à la maison ?» Et il me répond, « Pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais ?» Il joue à des jeux vidéo, sur TikTok, etc. Comme l'a déclaré le directeur général de la santé des États-Unis, des études ont montré un lien entre une utilisation excessive des réseaux sociaux et une mauvaise qualité du sommeil, une durée de sommeil réduite, des troubles du sommeil et la dépression chez les jeunes. Un enfant privé de sommeil aura du mal à se concentrer, non pas parce qu'il souffre de TDAH, mais parce qu'il manque de sommeil. Le manque de sommeil imite presque parfaitement le TDAH. Les outils de dépistage habituels du TDAH, comme les échelles d'évaluation de Connors, ne permettent pas de distinguer l'enfant inattentif parce qu'il manque de sommeil de celui qui ne se concentre pas parce qu'il souffre réellement de TDAH. J'ai entendu plusieurs enseignants dire que le manque de sommeil nuit à l'éducation, car les enfants n'ont pas la capacité d'apprendre lorsqu'ils ne sont pas éveillés en classe. Et dans la dernière partie de cette section, sans doute la plus triste de toutes, il y a le fait que les enfants ne lisent plus. Malheureusement, la réalité est que seulement 34% des jeunes de 8 à 18 ans interrogés par le National Literacy Trust déclarent aimer lire pendant leur temps libre. Il s'agit du niveau le plus bas enregistré par l'organisme caritatif depuis qu'il a commencé à interroger les enfants sur leurs habitudes de lecture il y a 19 ans, soit une baisse de 8,8% depuis l'année dernière. N'est-ce pas triste? Mais tout cela revient au fait que les enfants n'ont même pas l'occasion de lire alors que leur vie est remplie d'activités extrascolaires surchargées et d'écrans qui accaparent tout leur temps. J'imagine qu'il doit être difficile, enfant, de se convaincre de s'asseoir et de lire un livre quand on peut aussi faire défiler TikTok et ressentir une poussée de dopamine toutes les 10 secondes. Le plaisir de lire des enfants est tombé à son plus bas niveau depuis près de 2 décennies, seulement un jeune sur 3 déclare aimer lire pendant son temps libre. Et cela présente bien sûr des inconvénients évidents. Nous savons que la lecture est bénéfique pour les enfants, mais les bienfaits d'un vocabulaire enrichi et d'un bien-être mental ne doivent pas être sous-estimés. Alors, où en sont nos enfants? Eh bien, avec une génération d'enfants fragiles. Le problème de la surprotection et du contrôle excessif de la vie de ces enfants, c'est qu'ils sont démunis face à la vie. Selon le dernier rapport des CDC, 57% des adolescentes américaines déclarent désormais se sentir constamment tristes ou désespérées, contre 36% en 2011. Chez les garçons, 29% déclarent se sentir constamment tristes ou désespérées, contre 21% en 2011. Compte tenu de tous ces facteurs, nous constatons que les enfants se retrouvent sans lien fort avec leurs parents. Ils puisent leur estime de soi dans leur père et la validation en ligne. Et ils sont désorientés dans un monde où ils n'ont ni compétences utiles ni loisirs. Et avec ça, On constate que la génération alpha n'est pas capable de s'autoréguler comme elle le devrait. Je suis thérapeute et je travaille principalement avec des enfants et des adolescents. Je travaille avec des enfants alpha, pour l'essentiel. Et je constate ce type de comportement tout le temps. C'est un problème. Des enfants qui ne savent pas réguler leurs émotions, qui ne comprennent pas les conséquences, qui ne comprennent pas les limites. Mais le plus gros problème, ce sont les parents. Très souvent, ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Ils ne veulent pas savoir en quoi ils ont contribué au problème. Et souvent, quand on essaie de leur en parler, ils se défendent. Ils deviennent très défensifs et refusent d'entendre les raisons. Si on leur suggère des choses à mettre en œuvre à la maison, ils vous disent soit qu'ils l'ont déjà fait, soit qu'ils ont déjà essayé, soit que ça ne marche pas, etc. Et la résistance est énorme. Et non, je ne parle pas de parents exceptionnels, extrêmement dévoués et engagés à aider non seulement leurs enfants, mais aussi eux-mêmes, et très ouverts et prêts à changer pour devenir les meilleurs parents possibles. Je parle de parents qui refusent d'admettre qu'ils sont à 99,9% responsables des problèmes de leurs enfants. On en est arrivé au point où l'on dit que la génération alpha est la génération la plus hostile et la plus fragile à ce jour. Les enfants d'aujourd'hui ont plus tendance à fuir les défis, à abandonner face à l'inconfort ou à demander plus de réconfort ou d'aide aux adultes, faute d'espace pour développer leur résilience. La génération alpha, en particulier, a été exposée toute sa vie à la gratification instantanée, elle a toujours besoin de chercher quelque chose. Elle n'a pas envie de travailler, ou doit faire mille et une choses différentes pour être surstimulée et vraiment accomplir ses tâches. Et beaucoup de membres de la génération alpha ont beaucoup de mal à parler, à lire et à faire les choses à l'école. Ils devraient se renseigner. Ils ne veulent pas travailler. Ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Si les parents ont généralement de bonnes intentions, beaucoup d'entre eux sont mal placés. Trop insister sur un aspect de l'enfance, quel qu'il soit, crée une perte d'opportunité. Et si l'on considère les effets à long terme d'un engagement scolaire excessif, par exemple, les perspectives ne sont pas bonnes. Ce faisant, les enfants finissent par fonder toute leur estime de soi sur leur réussite scolaire, ce qui les rend insécurisés et vulnérables en cas d'échec. Fonder toute son estime de soi sur ses réussites est intenable. Si la seule façon de se sentir bien dans sa peau est de réussir quelque chose, on ne peut jamais s'arrêter d'essayer et on finit par s'épuiser. Salut, c'est moi. J'ai essayé et j'ai craqué. Personne ne m'a jamais donné la possibilité de me sentir utile simplement parce que j'en ai. Alors, je te propose cette option. Tu as déjà de la valeur, ma chérie. Tout le reste est inventé. Tu as déjà de la valeur. Rien que ça, tu as déjà de la valeur. Continue comme ça, ma belle, je suis fière de toi. En fait, des études ont montré que trop se concentrer sur les études nuit aux résultats scolaires. N'est-ce pas un peu fou? Des chercheurs ont suivi des lycéens 11 et 50 ans après l'obtention de leur diplôme. Ils ont constaté que fréquenter un lycée performant était associé à de moins bonnes performances scolaires et professionnelles que des élèves de même revenu, mais scolarisés dans des établissements aux performances moyennes. En effet, la seule chose qu'ils connaissent, ce sont les études. Il n'y a pas de véritable sentiment d'identité au-delà d'une note sur un bout de papier. Mais l'autre problème qui ressort de tout cela est un manque de développement socio-émotionnel. Et cela nous amène au point le plus triste de cette vidéo, la génération alpha ne se fait pas d'amis. Le manque de communauté est déjà un problème majeur dans notre monde moderne et s'aggrave encore chez nos enfants. Parmi les parents, 19% déclarent que leur enfant n'a pas ou pas assez d'amis. Et 90% disent que leur enfant aimerait avoir plus d'amis, mais que des obstacles les en empêchent. Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'une part, les enfants ne développent pas suffisamment leurs compétences sociales, mais ils manquent aussi de temps pour socialiser malgré leur emploi du temps chargé. Même si ces événements sont des activités sociales, ils ne créent pas l'environnement social ouvert dont les enfants ont besoin pour se faire de vrais amis. Jouer au foot avec quelqu'un tous les jeudis soirs ne crée pas automatiquement de liens profonds. Les vraies amitiés naissent de moments en tête-à-tête et d'interactions significatives. Notre génération est tellement ancrée dans les réseaux sociaux et connectée en permanence que nous avons du mal à avoir des conversations en personne. En effet, lorsqu'ils ont une conversation profonde avec quelqu'un, les gens préfèrent envoyer un SMS bien long plutôt que de l'appeler ou de le rencontrer. La plupart des gens ont plus confiance en eux lorsqu'ils discutent par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou par SMS. Et ils n'aiment vraiment pas ceux cachés derrière leur téléphone. Exactement. Et c'est un peu difficile de parler aux gens maintenant, car les gens préfèrent discuter en ligne. Et maintenant, nous n'avons vraiment pas les compétences sociales pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais le principal facteur de ce problème d'amitié, c'est que les enfants se nourrissent de relations parasociales en ligne. Que ce soit avec un influenceur qu'ils suivent ou même avec d'autres joueurs, ce qui techniquement n'est pas une relation parasociale, mais c'est certainement différent des interactions en personne. Mes deux enfants jouent beaucoup à Fortnite et à des tonnes de jeux vidéo compétitifs avec leurs amis, non? Du coup, ça a l'air social, mais je me demande presque si c'est bénéfique à leur âge pour évacuer une partie de cette agressivité de manière saine, ou est-ce juste une rationalisation? Et avec l'adolescence de Gen Alpha, on constate aussi une augmentation des relations amoureuses remplacées par des relations en ligne. Les enfants ne se rencontrent plus au centre commercial. Ils nouent des amitiés et parfois même des coups de cœur en jouant à Roblox, Fortnite et Minecraft. Pour la génération Alpha, qui rejoint souvent ces plateformes dès l'âge de 7 ou 8 ans, il est naturel que leur terrain de jeu numérique devienne leur premier lieu de rencontre. Les enfants remplacent leurs interactions sur le terrain de jeu par des interactions en ligne, d'une part parce que c'est plus facile, d'autre part parce que cela leur donne un sentiment de sécurité, car ils ne sont pas gênés, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour interagir autrement. Et plus ils s'enfoncent dans ces univers virtuels, plus ils s'éloignent de la vie réelle. Un exemple concret de ce phénomène est tiré du livre « L'effondrement de la parentalité », auquel je fais référence dans toutes mes vidéos. C'était un excellent livre pour tous les parents. Je le recommande vivement. Mais il s'agit d'un adolescent. Il a perdu tout intérêt pour l'école, la plupart de ses amis et le sport. Son cercle d'amis s'est rétréci. Il passait désormais la plupart de son temps libre avec quelques autres garçons qui partageaient sa passion pour les jeux vidéo. Il est devenu provocateur et irrespectueux envers les adultes, y compris ses parents. Si nous ne changeons rien à notre approche parentale, j'aimerais au moins que nous donnions la priorité à l'enseignement des compétences sociales, car elles sont essentielles non seulement à la réussite, mais aussi à une vie épanouissante. Une vie en ligne a ses limites. Même si vous êtes nul à l'école, ce qui n'est évidemment pas le but, vous pouvez toujours aller loin dans la vie avec de solides compétences sociales. Je me souviens qu'un professeur d'université m'a dit un jour que tout ce qui compte pour les employeurs, c'est quelqu'un qui est ponctuel et agréable à parler. Évidemment, un emploi exige plus que cela, mais cela soulignait qu'il faut vraiment être une personne socialement compétente pour réussir dans la vie. Mais l'essentiel est que l'enfance n'est pas un chapitre séparé de l'âge adulte. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Nous savons que les deux sont intimement liés et que l'un nourrit l'autre. Pourtant, nous ne donnons aux enfants aucune limite ni aucun ensemble de compétences pour les préparer à la réussite à l'âge adulte. Un enfant confiant, doté d'un esprit critique, capable de créer ses propres jeux et de résoudre ses propres problèmes sera bien mieux préparé à l'âge adulte qu'un enfant dont les journées sont entièrement planifiées, à qui on dicte constamment ce qu'il doit faire et qui ne voit de valeur qu'aux notes qu'on lui donne à l'école. Tout est une question de limites et de liberté placées aux bons endroits. Bon, pour conclure, malgré mes critiques sur la génération Alpha ces 30 dernières minutes, une fois ce texte terminé, excusez-moi mon langage, mais je tiens à préciser que je ne pense pas qu'elle soit condamnée. Nous parlons bien sûr des tendances moyennes observées chez les enfants, et mon objectif avec des vidéos comme celle-ci est d'aider les parents à se recentrer lorsque cela est nécessaire. Je sais que beaucoup des leçons que j'ai tirées de cette vidéo s'appliquent à mon propre style parental. Comme je l'ai dit, beaucoup de ces parents essaient simplement de faire de leur mieux et corrigent à outrance le style parental avec lequel ils ont grandi. De plus, c'est la première génération à être totalement immergée dans la technologie. Alors, bien sûr, il y aura des contretemps. Alors, à vous de me dire si vous pensez qu'ils sont foutus ou non. Personnellement, je ne peux pas y succomber, car cela signifie abandonner mes propres enfants. Mais, pour terminer, je tiens à vous rappeler de vous abonner à ma chaîne. En fait, je publie maintenant 2 vidéos par mois, si vous ne l'aviez pas remarqué. Au début du mois, je me suis mis à travailler à temps plein sur YouTube, ce qui me permet de doubler ma production pour vous tous. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Et pour rappel, chaque génération a ses difficultés. Et à partir de 2025, la nouvelle génération, la génération bêta, a fait son entrée. Et elle n'aura pas la vie facile non plus. Alors, rassurez-vous. Au revoir.
Bon, les enfants, je déteste le dire, mais je pense qu'il est temps de former une alliance avec la génération Y.
Vous devez être vraiment désespéré pour venir nous demander de l'aide. Voyez-vous, nous, les millennials, avons laissé la génération X tranquille parce que nous comprenions l'ordre des choses. Et maintenant que vous sentez le temps frapper à votre porte et la génération Alpha vous talonner, vous venez à nous chercher refuge. Et je vous laisse avec un peu de sagesse millénaire que nous aimons nous répéter quand les choses vont mal. Et voilà. Pourquoi intervenir avec un « vous n'avez jamais entendu parler de fermer cette foutue porte » Non, il vaut bien mieux affronter ce genre de choses avec calme et rationalité.